L'heure de retrouver à Paris Camille Magnard pour son journal. Bonjour Camille.
Bonjour, bonjour Olivia, bonjour à tous. Une minute de silence respectée il y a une demi-heure à travers tout le Royaume-Uni. Hommage aux victimes de l'attentat terroriste de lundi soir à Manchester où nous retrouverons notre envoyé spécial Marie-Pierre Véraud dès le début de ce journal pour faire le point sur une enquête qui avance très rapidement. Un mini-sommet de l'OTAN ce soir à Bruxelles, ce sera le premier pour Donald Trump et Emmanuel Macron, les deux chefs d'État qui profitent de l'occasion pour déjeuner ensemble ce midi. Une rencontre suivie pour nous par Nathalie Hernandez. Emmanuel Macron doit également s'entretenir à Bruxelles avec le président turc Erdogan. Sommet de expliquez-lui sur le sort d'un photographe français, Mathias Depardon, détenu dans le sud de la Turquie sans explication officielle depuis maintenant 2 semaines. De simples contraventions pour les fumeurs de cannabis français, c'est la mesure annoncée par le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Explication avec Nathanaël Charbonnier dans ce journal. Et puis l'invité de ce midi 30, ce sera le journaliste Nicolas Grovered, spécialiste de défense internationale, pour parler justement des enjeux du sommet de l'OTAN à Bruxelles. En temps normal, la ville de Manchester devrait toujours résonner des cris de supporters de football, ceux du club du Manchester United, sacré champion d'Europe hier. Oui, mais voilà, il y a une demi-heure, c'est pourtant bien une minute de silence qui a enveloppé la ville. Hommage donc aux victimes de l'attentat de lundi soir à la Manchester Arena. En direct de Saint Anne's Square, le cœur de la ville de Manchester, nous sommes en ligne avec Marie-Pierre Véraud. Bonjour Marie-Pierre. Marie-Pierre, les exploits footballistiques d'hier soir ont donc laissé la place tout à l'heure au silence et au recueillement.
Et oui, énormément d'émotions ainsi sur cette place Sainte-Anne où la foule s'est massée, débordant dans les rues adjacentes. Plusieurs milliers de personnes, hommes, femmes, enfants serrés et qui se sont figés à 11h, heure locale, il y a une demi-heure, quand le clocher a sonné. Un silence lourd, empreint de gravité autour de la statue où les bouquets de fleurs continuent à s'amonceler. Des centaines de bouquets multicolores, des bougies, des ballons, ces affichettes « I love Manchester », des ballons en forme de cœur, des cœurs brisés aussi sur la multitude de petits mots et des peluches. Cette horreur, le fait que des enfants aient été pris pour cible, ajoute bien sûr à l'émotion. Le mot « innocent » revient en boucle. Les mancuniens n'en finissent pas de se rappeler ces images, ces visages. Alors, il fallait être là ce matin. Daniel, 22 ans, les yeux rouges et la gorge nouée, me dit d'être venu montrer son respect pour les familles. C'est important, ajoute-t-il, que la ville se rassemble, montre son unité face à ces idiots, qu'elle montre sa force. Un moment de deuil partagé, étape fondamentale pour permettre à la communauté des habitants de Manchester de se rassurer sur leur volonté de ne pas céder au désespoir ou à la haine. La foule a d'ailleurs, après cette minute de silence, applaudi à tout rompre avant d'entonner « Don't look back in anger » du groupe Oasis pour ne pas céder à la haine. C'est extrêmement poignant et beaucoup pleurent ici. Les gens ont beaucoup de mal aussi à se séparer.
Et pendant ce temps, Marie-Pierre, l'enquête autour du kamikaze Salman Abedi continue de faire des progrès rapides.
Oui, un hélicoptère d'ailleurs a survolé la place, comme un rappel que la traque se poursuit. Elle s'accélère même, déjà 8 personnes en garde à vue, arrêtées au Royaume-Uni. Parmi elles, la mère et l'un des frères du kamikaze. Son père et l'un de ses jeunes frères avaient été interpellés en Libye, où le père était retourné s'installer après la chute de Kadhafi. Ils sont soupçonnés de liens avec l'État islamique et les arrestations ne sont sans doute pas terminées. La police s'attache à démêler le réseau de complicité dont a bénéficié Salman Abedi, la famille, les proches, car l'on est sûr à présent qu'il n'a pas agi seul. Les enquêteurs sont engagés dans une véritable course contre la montre pour retrouver l'artificier du groupe, un homme capable de fabriquer d'autres engins de mort. Toute information pouvant conduire à identifier la signature de la bombe de l'Arena est cruciale, d'où la colère des autorités devant les fuites côté américain et la publication de photos qui pourraient mettre en péril cette traque de l'artificier.
Merci Marie-Pierre Véraud en direct donc de Manchester. Et j'ajoute que des démineurs et des équipes de l'armée britannique sont en cours d'intervention. On n'en sait pas encore beaucoup plus sur le campus de l'université de Tradford. C'est dans la banlieue sud de Manchester. Et on l'évoquait à l'instant avec Marie-Pierre Véraud, ces fuites dans la presse américaine qui énervent, c'est le moins qu'on puisse dire, les enquêteurs britanniques furieux de la divulgation par le New York Times, donc de ces informations qui devaient rester confidentielles pour permettre à l'enquête de prendre par surprise les éventuels complices de Salman Abedi. C'est une correspondance depuis Londres de Marie Vivant.
Interrogée sur la BBC, la ministre de l'Intérieur britannique Amber Rudd s'est dit furieuse. Le journal américain The New York Times cite les autorités anglaises parlant d'une bombe puissante, dotée d'une charge ultra rapide et réalisée avec application. Les photos publiées par le quotidien prises sur le lieu du drame montrent que des morceaux de métal ont été utilisés, des vis et des boulons, pour faire un maximum de dégâts. Ces fuites dans la presse américaine agacent ici au Royaume-Uni. Selon le gouvernement, ces images vont être une source de stress pour les victimes, leurs familles et le public. Elles pourraient aussi perturber l'enquête, la ralentir, supprimer l'élément de surprise dont pourraient bénéficier les policiers. Les services de renseignement britanniques auraient d'ailleurs décidé de ne plus communiquer leurs informations à leurs homologues aux États-Unis. La première ministre Theresa May va faire part de ses préoccupations sur ce sujet au président américain Donald Trump cet après-midi au sommet de l'OTAN à Bruxelles.
Marie Vivant, et justement ce sommet de l'OTAN qui se tiendra tout à l'heure dans la capitale belge, il s'agit en fait d'un dîner qui réunira les dirigeants de l'organisation atlantiste et voilà qui va aussi donner l'occasion à deux présidents fraîchement élus de faire connaissance. Dans moins d'une demi-heure, Emmanuel Macron doit déjeuner avec Donald Trump, deux hommes que presque tout oppose sur la forme en tout cas, mais qui vont devoir coopérer sur de nombreux dossiers. Nathalie Hernandez.
Dans une ville sous haute sécurité avec des centaines de policiers et de militaires, Emmanuel Macron et Donald Trump vont passer 1h15 en tête-à-tête à l'ambassade américaine. Un déjeuner de travail offert par le président américain. Donald Trump s'était déjà entretenu par téléphone avec son homologue français au lendemain de l'élection de ce dernier. Le réchauffement climatique et la lutte antiterroriste avaient déjà été évoqués entre les deux présidents. Deux sujets qui seront à nouveau au centre de cette rencontre. Le président français entend convaincre Donald Trump de respecter la COP21. Emmanuel Macron entend être franc et direct avec le président américain. Il devrait lui faire part également de ses réserves sur l'engagement formel de l'OTAN dans la coalition en Irak et en Syrie. Un engagement qui doit toutefois être acté aujourd'hui par l'Alliance, même si bon nombre de pays y participent déjà. Il est enfin probable que le président français jouera un rôle d'ambassadeur pour tous les Européens afin d'apaiser les craintes et d'éviter les critiques de son homologue américain vis-à-vis de l'Union européenne et de l'OTAN.
Nathalie Hernandez à Bruxelles pour France Culture. Bruxelles donc où ce sommet de l'OTAN va débuter officiellement fin d'après-midi et on en parle tout de suite avec l'invité de cette édition. Bonjour Nicolas Grovered.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, rédacteur en chef de la revue en ligne B2 qui traite des questions de défense depuis Bruxelles. Alors on a eu confirmation ce matin donc que l'OTAN va bien rejoindre la coalition internationale contre Daesh, mais sans participer au combat, voilà ce qu'on nous explique. Est-ce que c'est ça le grand dossier de ce mini-sommet de Bruxelles ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux à cette rencontre ?
C'est un des gros dossiers parce que vous vous souvenez que pour le président américain Donald Trump, là, une des premières priorités en matière internationale, c'était la lutte contre Daesh. Donc, il peut s'enorgueillir, en fait, d'un certain succès diplomatique en emmenant la coalition avec lui. Il y a d'autres sujets. Le premier sujet de ce sommet, c'est en fait, pour le président américain, c'est traditionnel, en fait. Le président américain, une fois élu, se rend à Bruxelles, à l'OTAN, pour se présenter sa politique, ses priorités, et écouter ses partenaires, ses alliés. J'ai mentionné le mot sommet, en fait, on a rétrogradé ça en réunion spéciale ou en réunion simple réunion parce qu'en fait il n'y aura qu'un dîner de travail. Mais il y aura d'autres sujets. Il y a l'Afghanistan qui est un sujet crucial où l'OTAN s'est engagée et les Américains depuis une quinzaine d'années. On ne peut pas dire que le résultat soit à la hauteur de l'engagement. Il y a la situation dans les Balkans qui reste encore difficile. Il y a la lutte antiterroriste de façon générale et de façon importante. Il y a ce lien transatlantique. Il va falloir éclaircir la position américaine. Les alliés, je dirais, européens attendent beaucoup de cette rencontre pour être sûr que l'OTAN n'est pas obsolète, comme l'avait dit le président américain.
On va revenir sur tout ça avec vous tout à l'heure. Merci Nicolas Grovered pour ces premiers éclaircissements. Donc, et on vous retrouve dans la séquence interview de ce journal dans à peine 10 minutes. Pour l'heure, nous restons à Bruxelles en marge de ce sommet donc, qui n'en est pas un, on vient de l'entendre. Emmanuel Macron qui a aussi à son agenda, après son déjeuner avec Donald Trump, une rencontre avec cette fois le président turc Recep Tayyip Erdogan, un partenaire qui inquiète l'organisation atlantiste, essentielle, on le sait, succès dans la gestion de la crise au Moyen-Orient, mais clairement engagé la Turquie dans ce qu'on pourrait considérer comme une dérive autoritaire. Le président français devrait évoquer avec son homologue turc le sort du photographe Mathias Depardon, arrêté le 8 mai dernier dans le sud-est à majorité kurde de la Turquie. Il y réalisait un reportage pour le magazine National Geographic. Le français est désormais détenu dans un centre de rétention pour migrants à Gaziantep. La Turquie lui reproche de soutenir le PKK en raison de ses photos publiées sur les réseaux sociaux. Mathias Depardon devrait être expulsé du pays, mais les choses traînent. Alors le journaliste a entamé dimanche dernier une grève de la faim. On en parle avec Erol Önderoğlu, représentant de Reporters sans frontières à Istanbul, qui demande sa libération immédiate.
Mathias va très mal. Il a fini par entamer la grève de la faim. Ça fait 15 jours qu'il attend depuis sa cellule de la direction des migrants de Gaziantep. Il va très mal dans la mesure où il est sans réponse à ses démarches. Aucun dirigeant turc, porte-parole turc n'a souhaité répondre, à apporter des explications à sa situation. Depuis 10 jours, nous n'avons aucune nouvelle des autorités turques. Nous ne savons pas pourquoi cette décision traîne. Il y a une situation de plus en plus difficile pour les représentants des médias internationaux basés en Turquie, et ils sont poussés à vivre les mêmes mauvaises expériences que leurs confrères, que leurs consœurs turcs.
Erol Önderoğlu, donc, de Reporters sans frontières en Turquie. Nous accueillons à présent l'invité de la grande table, l'historien, économiste libanais Georges Korm. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et merci à vous d'être en studio avec nous. On va parler plus longuement tout à l'heure avec Olivia Gesbert de votre ouvrage La nouvelle question d'Orient aux éditions de La Découverte. D'ores et déjà sur cette question qu'on vient d'évoquer, cette question turque, on a une nouvelle illustration malheureusement du serrage de vis sur la question des libertés fondamentales dans ce pays. Est-ce que l'Europe ou l'OTAN, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ont selon vous les moyens de peser encore sur ce tournant que connaît la Turquie?
C'est-à-dire que le problème, c'est que l'Europe a tellement vanté M. Erdogan lui-même et son parti en essayant de le promouvoir comme étant la solution d'avenir pour l'ensemble des sociétés arabes en crise, qu'il lui est difficile après, et même par la suite, avec la crise des réfugiés que le président Erdogan lui-même a déclenché, n'est-ce pas, à partir des côtes turques, s'est mis à faire un chantage qui a été accepté, pratiquement.
Donc un allié désormais bien encombrant, alors qu'on avait besoin de lui à une époque.
Et puis, enfin, il y a eu quand même un relatif silence des médias sur sa dérive autoritaire, qu'on voit monter depuis 3-4 ans, et qui s'est énormément accéléré après cette tentative de coup d'État. Les nouvelles sont passées comme des nouvelles presque ordinaires. Ce n'est que maintenant que l'affaire prend de la dimension.
On va reparler plus largement de votre vision, donc de ce nouvel Orient. Merci Georges Korm. On vous retrouve dans la deuxième partie de la Grande Table. Un mot enfin de l'actualité internationale qui concerne ces tensions à nouveau en mer de Chine méridionale. Elles opposent les États-Unis à la Chine. Le fort mécontentement qu'a exprimé ce matin Pékin après qu'un navire militaire américain a croisé sans permission à proximité d'un îlot revendiqué donc par la Chine. Nouvelle tension autour de cette île artificielle jugé illégal par Washington, qui voit des systèmes de défense anti-aérien et anti-missiles donc développés par la Chine. Dans l'actualité en France, à présent, exemplarité, collégialité, efficacité, ce sont les trois mantras du nouveau gouvernement, des règles édictées par Édouard Philippe dans une circulaire qu'il a envoyée à tous les ministères et qui est publiée ce matin au Journal officiel. L'objectif, y explique le Premier ministre, c'est de renouer avec les Français l'indispensable confiance sans laquelle il n'est pas d'administration efficace. Les membres du gouvernement y sont aussi invités à adopter un comportement, je cite, modeste et respectueux de chacun. Chacun devra remettre à Matignon avant le 15 juin la feuille de route de son ministère pour les années à venir. Et puis, cette précision, on apprend ce matin que le portefeuille de la jeunesse, absent, on l'avait remarqué, dans la répartition des nouveaux ministères, incombe finalement à l'éducation nationale. Un gouvernement qui précise petit à petit ses intentions et ses premières mesures en matière, cette fois, d'usage de drogue dite douce. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, est revenu hier sur une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Il promet que d'ici quelques mois, les consommateurs de cannabis qui seront pris en flagrant délit de consommation ne devront plus passer devant un tribunal. Ils devront s'acquitter d'une simple contravention. Et visiblement, la mesure fait plaisir aux deux camps, à la fois droit aux fumeurs et aux policiers, Nathanaël Charbonnier.
Et oui, du côté de la police, tout d'abord, on salue l'initiative du ministre qui aide à sortir de l'hypocrisie. Aujourd'hui, lorsqu'un policier interpelle un fumeur de cannabis, il doit l'emmener au commissariat, le mettre en garde à vue et lancer une procédure judiciaire assez lourde. Une débauche de moyens pour un résultat qui s'avère bien maigre. Philippe Capon, secrétaire général de l'UNSA Police.
On a chaque année environ entre 120 et 130 000 procédures très lourdes qui sont faites par des officiers de police judiciaire. Sur ces 120 à 130 000 procédures, un peu plus de 2000, aux environs de 2000, donnent lieu réellement à des poursuites. C'est-à-dire que quasiment 128 000 procédures font l'objet d'un simple rappel à la loi.
Fumer du cannabis, cela restera donc une infraction, mais bien loin de la pénalisation actuelle qui prévoit des amendes pouvant aller jusqu'à 3 750 € avec de la prison possible. Pour les partisans de la légalisation de l'usage de cannabis, si le gouvernement va au bout de sa promesse, on assistera à une réelle avancée, mais cela restera juste une avancée. Farid, porte-parole de Cannabis sans frontières.
Sarkozy avait fait à peu près la même proposition il y a 15 ans, un peu moins de 15 ans. Simplement, il l'avait fait de manière un peu provocatrice en disant on va saisir les scooters, les téléphones portables et puis on mettra une amende de 400 €, ce qui était complètement déraisonnable. Et là, bon, voilà, on est 15 ans après, il fallait absolument que ça change, que ça bouge. Donc voilà, c'est très bien. Après, c'est pas tout à fait la dépénalisation parce que on ne sait pas ce qu'il y aura derrière. Ça se trouve, au bout de 3 amendes, eh ben, on ira quand même devant le tribunal dans l'immédiat. Ce qu'il y a de bien, c'est d'annoncer de plus vouloir criminaliser, de plus vouloir surcharger et les commissariats et les tribunaux.
Et selon l'Observatoire des drogues, en 2014, 17 millions de personnes déclaraient avoir fumé du cannabis, 700 000 en consommeraient quotidiennement en France.
Nathanaël Charbonnier, merci pour ces précisions. Il est midi 46 sur France Culture, la séquence interview de ce journal à présent. Nous retrouvons donc notre invité pour parler du sommet de l'OTAN qui se déroule à Bruxelles. Nous sommes donc avec Nicolas Grovered en duplex des studios de France Bleu Isère. Nicolas Grovered, je le rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste de défense et de politique internationale, rédacteur en chef de la revue B2 comme Bruxelles 2, donc qui est le nom du site spécialisé que vous animez. Alors tout d'abord, on a pu lire dans la presse ces derniers jours que la durée des interventions à ce dîner des chefs d'État ce soir à Bruxelles avait été réduite pour s'adapter, on nous a dit, à la durée de concentration réduite du nouveau président américain. Faire de la pédagogie, expliquer à Donald Trump à quoi sert l'OTAN qu'il jugeait obsolète il y a encore quelques mois, c'est ça le premier objectif de cette réunion d'aujourd'hui ?
Oui, c'est tout à fait bien résumé. C'est faire passer un courant d'échange entre les deux. C'est-à-dire que le président américain s'explique, explique sa politique, explique ce qu'il veut, ce qu'il attend des alliés, et que les alliés expliquent ce qu'ils attendent des États-Unis et ce qu'ils attendent de l'OTAN également, comment ils la voient. Pour la première fois, je pense qu'on a un allié américain assez imprévisible. Et donc, cette première prise de connaissance qui est souvent assez informelle et permet de dresser des pistes pour le futur, là, aura un enjeu beaucoup plus que la symbolique, on va dire.
Hein, parce qu'il n'a pas encore de vision et de politique bien définie en matière atlantiste, ou est-ce que c'est parce que les signes qu'il a pu donner ont été contradictoires et en tout cas n'ont pas permis de décider de voir une ligne claire ?
C'est-à-dire que bien malin sera celui qui pourra dire ce que veut Donald Trump de l'OTAN.
J'allais vous le demander, justement, faut pas que je vous le demande alors.
On peut le deviner, non mais on peut le deviner, on peut avoir plusieurs interprétations. La seule chose qu'il a clairement affichée, c'est la lutte contre Daesh qui était son objectif numéro un. Ça c'était clairement affiché, parce qu'il avait quand même quelques lignes de force. Sur l'OTAN, son mot d'obsolète pour l'OTAN, ou qu'il faut la revoir, le mot est dur, mais tous les présidents américains ont tenu un langage assez clair aux alliés européens, en disant il faut vous impliquer plus, il faut dépenser plus pour votre défense et il faut répartir mieux la charge du fardeau. Trump l'a dit à sa manière de façon beaucoup plus dure, beaucoup plus ferme. En gros, Trump dit aux Européens, si vous voulez que l'OTAN vous protège, il faut payer plus aux Américains et nous on fera le job.
Mais alors, Nicolas Grovered, on parle donc de la vision, disons, imprévisible des États-Unis, en tout cas pas très claire pour l'instant. À leur crédit, on peut quand même dire, est-ce que quelqu'un a encore une vision claire de ce à quoi sert l'OTAN ? On parle aujourd'hui donc de son application dans la lutte contre le terrorisme. Il y a un 29e pays, le Monténégro, qui va la rejoindre là dans les prochains jours. Il y a d'autres missions qui avaient été données à certaines périodes à l'OTAN, comme la gestion de la question migratoire qui s'éloigne très clairement des questions, en tout cas de ses objectifs premiers. À force d'élargir le cadre, on sait encore à quoi ça sert l'OTAN.
Ben, c'est-à-dire que effectivement, l'OTAN a joué avec le feu. C'est ce qu'on explique dans l'ouvrage qu'on a sorti avec André Dumoulin sur cette alliance qui reste en fait quand même indestructible au fil du temps. Le premier rôle de l'OTAN, c'est la défense territoriale du continent européen et du lien des États-Unis, du lien transatlantique face à la Russie. C'est ça l'objectif, le karma, le centre nerveux de l'OTAN. Après la chute de Berlin, il y a eu un peu une hésitation, un vent de l'OTAN ne savait plus trop ce qu'elle devait faire, donc elle a commencé à faire un peu de tout. Elle a fait de la lutte antiterrorisme théoriquement en Afghanistan. En fait, la lutte antiterroriste, c'était surtout les Américains qui la faisaient avec quelques alliés de façon secrète. Et elle faisait de la stabilisation qui n'a pas vraiment marché, la reconstruction de l'État qui a encore moins marché. Elle se cherchait un peu des raisons de vivre. D'une certaine façon, avec le retour d'une certaine agressivité russe, elle est revenue dans sa ligne de force qui est la défense territoriale du continent européen. C'est sa première ligne de force.
Et la défense du continent européen, ça passe aussi par la question d'une possible défense européenne, justement. On en parle beaucoup. Emmanuel Macron a fait savoir qu'il irait dans ce sens-là, la constitution d'une défense européenne. Angela Merkel a l'air de le suivre là-dessus. Comment ça peut s'intégrer dans le projet plus global de l'OTAN? Est-ce que c'est un contrepoids ou est-ce que c'est une manière d'échapper à la géopolitique atlantiste?
C'est quand on parle de ce que disent Macron et Merkel, ils ne remettent pas en cause le rôle de l'OTAN dans la défense territoriale. Donc quand on parle de défense européenne, c'est quelque chose en plus, en complément. Mmh. Le deuxième rôle de l'OTAN, c'est cette projection en fait de stabilisation dans des pays où il y a un gros risque d'instabilité terroriste qui va revenir vers nous en boomerang. Ce qui est son utilité dans l'engagement en fait en Irak, dans la coalition en Irak aujourd'hui. Quand on parle de défense européenne, c'est beaucoup plus complexe et tout le monde met des mots différents, une terminologie, la terminologie est unique, mais tout le monde met des raisons différentes. Quand on parle de défense européenne, c'est d'une part avoir la capacité de pouvoir intervenir dans des lieux où l'OTAN ne pourrait pas intervenir, soit parce que l'OTAN est mal vue, voilà, soit parce que c'est pas tout à fait le karma de l'OTAN. L'Union européenne, les Européens peuvent intervenir dans des actions très complexes. Par exemple, ils sont présents en Somalie où ils forment des militaires. Il n'y a pas l'OTAN qui est là. Et l'OTAN ne pourrait pas être là parce que les Américains ne veulent pas y revenir. L'Union européenne paye les soldats de la MISSOM qui vont au front pour stabiliser et combattre les terroristes, les Shebab. Nul ne peut le faire. L'Union européenne, en Somalie toujours, fait de l'aide humanitaire. On est dans une zone complexe qui va en fait tout à fait à l'Union européenne. L'Union européenne ne pourrait pas intervenir comme l'a fait l'OTAN en Irak, va le faire l'OTAN en Irak ou comme elle l'a fait en Afghanistan. Donc on est dans, il y a une espèce de fausse concurrence entre les deux organisations alors que chacun a besoin de l'un de l'autre. Par exemple, l'Union européenne met en place des sanctions économiques contre la Russie, l'embargo sur les armes. L'OTAN ne peut pas le faire.
Alors, puisqu'on parle de la Russie, Nicolas Grovered, la Russie, elle sera dans tous les esprits ce soir dans cette rencontre donc des dirigeants des pays membres de l'OTAN. On en est où dans la relation justement? On n'est plus dans la guerre froide, mais avec Donald Trump également, la question de ses relations avec la Russie, on en est où dans le dialogue OTAN-Moscou?
On en est dans une amitié très froide, on va dire. C'est que l'annexion de la Crimée plus l'intervention russe déguisée dans l'est de l'Ukraine a fait renaître une peur de l'intervention russe dans tous les pays de la bordure est de l'Alliance et donc qui ont dit à leurs collègues de l'OTAN arrêtez de faire tout n'importe où. Le premier rôle de l'OTAN, c'est d'assurer notre défense territoriale à nous. Donc ça va être ça. C'est aussi la présence de la Russie quand même au Moyen-Orient. Hein. Donc il faut voir aussi que toute la volonté de présence en Irak, par exemple, il y a actuellement un jeu assez complexe entre la Russie, les États-Unis et l'OTAN derrière. Hein. L'OTAN n'est pas en première ligne dans l'action au Moyen-Orient. C'est les États-Unis qui y sont. Donc tout dépendra du dialogue que Washington entretient avec Moscou. C'est ça qui va donner le là ensuite du dialogue entre Moscou et l'Alliance.
Et pour terminer,
Paris et Berlin, oui. Paris et Berlin ont déjà averti qu'ils ne voulaient pas d'une confrontation. Et Paris et Berlin sont aux avant-postes dans la négociation, ce qu'on appelle le dialogue de Minsk, pour essayer de trouver une solution, ou au moins d'apaiser le conflit en Ukraine, hein, dans l'est de l'Ukraine. Donc il y a bien des positions très claires et très différentes entre les Européens, certains Européens même, les Européens de l'Est et les Européens de l'Ouest, on va dire, pour aller vite, et les États-Unis. Et il faudra qu'entre ces différentes positions, il y ait une position en fait commune qui naisse au sein de l'OTAN, ce qui sera pas automatiquement évident.
Merci beaucoup, Nicolas Grosvéret.
On
va terminer sur ces perspectives pour cette rencontre aujourd'hui à Bruxelles. Merci d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue B2, auteur de l'Europe de la Défense aux éditions Villard. Vous étiez avec nous en direct en duplex de Grenoble grâce aux moyens techniques qu'ils en soient remerciés de France Bleu Isère. Un mot de météo, enfin, avec un soleil dominant ce jeudi de l'Ascension, le soleil qui règne en maître. Cet après-midi, le thermomètre va afficher entre 23 et 28 degrés sur le quart nord-est du pays. Ça va monter jusqu'à 26 à 32 à travers donc la France du nord au sud, jusqu'à 34 degrés pour le Pays Basque et le Languedoc. Ce journal était préparé avec Yacine Bouzard. À 18h, vous retrouverez Tara Schlegel.